Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Christ est ressuscité. Chers amis, cette émission est tout naturellement consacrée à la fête de Pâques que l'Église orthodoxe célèbre aujourd'hui. Nous commençons par l'homélie du Père Jean Bobok, docteur en théologie orthodoxe, sur le corps ressuscité du Christ que nous appelons le corps de gloire.
En vérité, il est ressuscité. Vous permettrez à quelqu'un qui s'occupe de théanthropologie, c'est-à-dire d'une anthropologie ontologiquement reliée à Dieu et non pas d'une anthropologie anthropologique tournée sur elle-même, comme le formule si bien le professeur Pierre Magnard dans un ouvrage questionnant l'humanisme, de dire quelques mots sur l'anthropologie de la résurrection du Christ. Pâques, la fête des fêtes, la solennité des solennités, comme le chantent les odes, retentit d'un cri de joie qui se répand la nuit pascale dans toute l'écuménée orthodoxe, c'est-à-dire dans tout l'univers, si nous avons bien compris le credo de Nicée-Constantinople, où nous disons « Je crois en une, c'est-à-dire une seule, sainte et apostolique Église. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a fait don de la vie. Ce tropère que nous chantons dans toutes les langues » et celui de l'Église une et indivisible, comme le Christ lui-même est indivisible, lui qui dans l'Eucharistie est fractionné et partagé, fractionné certes, mais non divisé, selon la formule de la fragmentation de l'agneau. Ce magnifique tropère, celui de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire de la résurrection du Fils de l'homme, qui affirme la mort de la mort, et apporte au genre humain la délivrance et la promesse de la résurrection générale, et donc aussi celui de la résurrection individuelle, c'est-à-dire personnelle et universelle. Dans le monde déchu où nous sommes, tout en sachant cependant que nous ne sommes pas de ce monde, et devant l'idolâtrie médiatisée du corps et du jeunisme, avec la peur du vieillissement, de la maladie et de la mort, d'un monde sans espoir, sans espérance, au-delà de sa finitude et de l'incomplétude qui taraude l'homme, qui comprend son incomplétude. La résurrection du Seigneur est tout l'enseignement scripturaire, non seulement sur sa résurrection, mais plus précisément sur son corps ressuscité, prennent justement toute leur actualité en cette période pascale. En glorifiant la résurrection du Seigneur, nous disons souvent au cours de la liturgie les paroles suivantes, tout en encensant l'autel qui symbolise aussi le tombeau du Christ. Au tombeau avec ton corps, aux enfers comme Dieu avec ton âme, au paradis avec le larron, tu siégeais sur le trône avec le Père et le Fils, ô Christ qui emplit tout et qu'aucun lieu ne peut contenir, ou si l'on préfère, toi qui es insaisissable. Paroles qui sont à mettre aussi en perspective avec le chant au plus profond de la terre tu es descendu, tu as brisé les éternels verrous qui nous tenaient captifs, et le troisième jour, comme Jonas, ô Christ, tu es sorti du tombeau. Il y a là, de toute évidence, un aspect ubiquitaire de l'hypostase du Verbe incarné et ressuscité, dans les différents aspects de son anthropologie liés à sa nature humaine tripartite, faite d'un corps humain, d'une âme humaine et d'un esprit humain. Comment peut-on interpréter cela? Cette question peut être abordée par le biais des exégèses différentes d'Origène, dont l'anthropologie est connue pour être fermement tripartite, et de Saint Grégoire de Nice, ce qu'on appelle le triduum pascal, tel que cela a été analysé par le père Jean Danielou, le futur cardinal. Le théologien catholique réputé spécialiste de Grégoire de Nice avait relevé trois passages d'Origène dans ses commentaires sur l'évangile de saint Jean. Le premier commente le fameux « noli me tangere »,« ne me touche pas », en ce sens que le Christ avait besoin d'une purification de par le Père avant d'être touché par Marie. Le second décrit la résurrection en trois étapes. C'était la résurrection d'être le premier jour dans le paradis de Dieu. C'était la résurrection encore de se manifester en disant « Ne me touche pas, je ne suis pas remonté vers mon Père ». Et enfin, c'était encore la résurrection lorsqu'il va vers le Père. Pour ce théologien, ces trois moments sont, chez Origène, équivalent à la sortie de l'âme des enfers et son entrée au paradis. La résurrection des corps et la manifestation à Madeleine, la réception du pneuma de l'esprit et la montée vers le Père. Présenté ainsi, c'est limpide de clarté et théologiquement splendide. Sur la problématique du larron et de la promesse qui lui a été faite par le Seigneur « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », Origène dit « Pour nous disons que peut-être avant de se rendre à ce qui est le cœur de la terre, l'enfer, il a restauré le paradis de Dieu, celui qui lui avait dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Et la solution, dit Danielou, est un bref séjour au paradis, les enfers étant le lieu normal durant les 3 jours, et la véritable entrée au paradis étant celle du premier jour de la résurrection. Cette idée d'un premier et court passage au paradis avant la descente aux enfers est reprise par Origène dans ses commentaires sur l'évangile de Matthieu. Danielou avait remarqué cela. De cette façon, le tripartisme anthropologique de la nature humaine du Christ est confirmé par Origène pour qui cette humanité se répartit en 3 habitats. Son pneuma dans les mains du Père, son âme au paradis, son corps dans le tombeau. Où l'on voit bien que la double nature du Christ, nature divine et nature humaine, a, quant à sa part humaine, un corps, une âme et un esprit humain qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit saint, contrairement à l'interprétation hérétique d'Apollinaire. Sur cette même problématique, saint Grégoire de Nice, très sensible au risque de l'apollinarisme, souvent trichotomique, donna un sermon de Pâques, De Triduo, écrit en 382, puis précisément son traité Adversus Apollinarium, contre Apollinaire, où il déclare: la mort n'est rien d'autre que la séparation de l'âme et du corps. S'étant uni à l'un et à l'autre, le Verbe ne se sépare ni de l'un ni de l'autre. Mais s'étant distribué aux deux, par l'âme il introduit le larron au paradis, par le corps il arrête la vertu de la mort. Et ainsi il rassemble par la résurrection ce qui était séparé, étant présent et dans l'un et dans l'autre, lui qui a donné librement son corps au cœur de la terre, comme il est écrit, et qui dispose lui-même de son âme, disant au Père, « Je remets mon âme entre tes mains, et au larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » La preuve de cela, c'est la puissance, l'energeia, qu'il exerce à la fois sur le corps par l'incorruptibilité, et sur l'âme en accomplissant son entrée au paradis. Ici, il faut faire une remarque relative à une traduction malheureuse du mot « âme » au lieu du mot « esprit ». Si d'une part le Christ remet son esprit entre les mains du Père, alors l'âme et le corps, c'est-à-dire le corps psychique, tel que décrit par saint Paul, vont à leur destinée, comme le dit l'Écriture, c'est-à-dire vers le tombeau et vers l'enfer. L'incarnation du Verbe a révélé la valeur de la vie humaine qui, incarnée, peut être ressuscitée pour l'éternité. La création de la matière est justifiée par le corps assumé et ressuscité du Christ, élevé au point extrême de la spiritualisation divine. Si le corps individuel de la personne n'est pas abandonné à la décomposition éternelle, alors la résurrection ne peut avoir lieu que de façon solidaire avec la transformation de toute la substance du cosmos, c'est-à-dire avec la fin de l'image actuelle du monde. Et l'Apocalypse nous dit « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. » Les miracles de la résurrection des morts opérés par le Christ, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, celui de Lazare bien entendu et des saints de Jérusalem, s'inscrivent évidemment dans les prémices pédagogiques de sa propre résurrection. Mais le Christ seul est ressuscité pour, écrasant la mort par la mort, mettre fin à notre finitude anthropologique, pour donner la perspective et l'espérance de la résurrection et se faire la source des forces de transfiguration du cosmos actuel et de la résurrection de nos corps. s'il est vrai que les composants de l'eschatologie universelle sont l'accomplissement du monde passé et la fin de sa forme actuelle, la parousie comme deuxième et glorieuse venue du Christ, la résurrection générale des morts, la transformation et la mutation spirituelle des corps terrestres, le jugement dernier et la rétribution finale, tout cet ensemble forme un article de foi du credo orthodoxe. En dehors du tropaire de la résurrection déjà cité, l'hymnologie de la fête, c'est unir à la fois le mystère de l'anthropologie de la nativité du Christ et de la virginité de la Mère de Dieu à l'anthropologie de la résurrection. Tout y est admirablement et théologiquement conséquent. Et je cite « Sans briser les scellés, ô Christ, tu t'es levé du tombeau, toi qui de la Vierge étais sorti sans briser le sceau de sa virginité, et tu nous as rouvert les portes du paradis. » Ainsi l'homme étant appelé à se diviniser, ce qui est le but de l'orthodoxie, peut et doit envisager sa propre eschatologie à l'image de la résurrection du Christ et croire en sa propre résurrection et la victoire sur la mort, répétant avec joie, confiance et allégresse, « Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a fait don de la vie. »
Et voici maintenant le message de Pâques du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Frères, fils et filles, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse le message de joie à l'occasion du grand événement de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ est ressuscité. Sommes-nous donc des insensés? Hier encore, nous étions ensevelis avec un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, et la première annonce de la résurrection par les femmes mirophores n'étant rien d'autre que le constat d'un tombeau vide. Étant entrées dans le tombeau, les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pourtant, l'Église en ce jour proclame partout dans le monde la résurrection de son époux. Là où le monde ne voit qu'un tombeau vide et la disparition du corps d'un Messie crucifié. Avec l'apôtre Paul, elle ne cesse de proclamer que ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et que ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes, puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Rayonnons donc d'allégresse, embrassons-nous les uns les autres. Du nom de frères, appelons même nos ennemis, pardonnons à cause de la résurrection et chantons « Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, et à ceux qui sont dans le tombeau, il a fait don de la vie. C'est lui qui est partout présent, a dressé sa tente parmi nous, en assumant tous les états de notre condition mortelle, de l'enfance à la mort. Mais à la suite de l'apôtre Pierre, nous proclamons « Le Christ n'a pas été abandonné à l'Hadès et sa chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, c'est Jésus, nous en sommes tous témoins. » En épousant notre condition d'esclave de la mort par son incarnation, le Christ a communié à notre chair et à notre sang. En ressuscitant, il a complètement renouvelé notre nature. Par le baptême, il nous a revêtus de l'homme nouveau et par l'onction, il nous procure la bonne odeur et la puissance vivifiante de l'Esprit. Mais dans son amour infini, il a fait plus encore, se mélangeant lui-même à ce qui nous nourrit et à ce qui nous abreuve, il a fait de sa chair et de son sang la source permanente des énergies trinitaires qui nous divinisent. De cette manière paradoxale, il nous rend participants de sa divinisation. Par les mystères divins, il nous unit toujours davantage à lui, faisant de nous les membres de son corps ressuscité, l'Église, son épouse, la chair de sa chair. Voilà donc le point ultime de la philanthropie divine. Ne craignons donc pas de nous réjouir et d'apporter la joie au monde en ces temps mauvais. Le plérum de l'Église doit bientôt se réunir pour le Saint et Grand Concile qui se tiendra en juin en Crète. Associons nos prières pour que cet événement tant attendu puisse être le signe de notre unité, mais plus encore pour qu'il puisse faire entendre la voix orthodoxe de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, à un monde sécularisé qui la méconnaît ou l'ignore. Voix dans le désert, certes, mais voix qui fait entendre l'harmonie et l'accord de l'Écriture et les témoignages des pères, des canons et des pratiques apostoliques. Voix de l'Esprit que le Christ insuffla à ses apôtres au soir de la résurrection et source de vie dans le désert de la postmodernité. La joie de l'Église pour un tel événement ne saurait nous faire oublier le sort effroyable des réfugiés, nos frères qui affluent de l'Orient, berceau de notre foi et lieu de naissance du monachisme, de nos liturgies et de toute notre tradition écrite et non écrite vers une Europe saisie de crainte et comme dépassée. Comment célébrer la résurrection d'un Messie crucifié par les puissants de ce monde et laisser mourir tous ceux que Dieu a créés à son image, tous les hommes. La question est sans doute complexe, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons que nous alarmer de son traitement purement comptable. Ne laissons pas le Christ mourir à nos portes. Puisse notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort, relevé le front des peuples d'Orient et suscité des artisans de paix capables de rassembler, de dépasser les clivages confessionnels pour faire émerger en cet Orient martyrisé la voie d'une humanité commune, créer à l'image et à la ressemblance du Dieu philanthrope. Montrons-nous responsables et comme les murs forts, soyons les témoins de celui que le tombeau n'a pu retenir et que toute créature en célèbre avec nous en ce jour, la résurrection du Christ, à lui nous sommes affermis. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux avec la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, en vérité il est ressuscité. Christos anesti, alithos anesti, Christos voskresie, voistini voskresie, Christos anviat, adevarat anviat, almesicam, hakamkam.
C'était Pâques avec l'homélie du Père Jean Bobok et le message du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargé de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr.